Bonsoir. Bonsoir Yannick Hennel. Bonsoir à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais tout de même rendre un hommage particulier au Mage, qui nous fait évidemment l'honneur de nous recevoir ce soir, mais c'est pas tellement... Cette organisation est magnifique, vous êtes nombreux, tout cela est parfait. Mais c'est aussi pour dire une chose. Aujourd'hui, selon les formules, les clichés journalistiques habituels, on va dire, on ne présente plus Yannick Hennel, prix Interallié, son livre a été amplement commenté, félicité partout, donc on a l'impression de voler au secours du succès. Mais le rendez-vous auquel nous sommes ce soir, je peux en attester, a été pris, je le parle sous le contrôle de Corinne Baccarat, à la fin du mois de juin, c'est ça ? Et d'ailleurs, ça a induit, de ma part, comme une erreur de précipitation, parce que j'ai reçu ce livre en même temps que l'invitation du Mage. Donc, je rappelle, fin du mois de juin, pour un rendez-vous, donc, nous sommes, sauf erreur ou omission, le 2 décembre. Donc, il y a des mois de cela. Et rien ne laissait présager que le livre aurait le destin qu'il connaît, mais on ne va pas s'arrêter, évidemment, seulement sur ce point. Simplement, voilà, c'est un livre, je l'ai ouvert dans la simple curiosité, j'ai pas pu m'arrêter de le lire, je l'ai posé, j'avais un travail à faire pour le lendemain, pour ma petite radio, donc je me dis, bon, il faut que j'arrête, et je n'y arrivais pas, et je me suis replongé dans le livre, j'y ai passé la nuit, et voilà, et j'ai consacré d'ailleurs la chronique du lendemain, à la personne, j'allais dire au personnage, mais à la personne dont nous allons parler ce soir. Je pense que nombreux sont parmi vous ceux qui ont lu le livre et qui comprennent ce que je suis en train d'essayer de dire. C'est que quand on est entré dans cette histoire, elle vous envahit de partout. On ne peut plus, il est pratiquement impossible de penser à autre chose, de se dire mais comment on a pu ignorer cela, donc de tout cela, on va évidemment parler en détail, longuement, un peu dans le désordre. Vous aurez, on va d'abord évidemment parler avec Yannick Hennel, mais ensuite vous aurez tout loisir de lui poser les questions que vous souhaitez. Mais voilà, je voulais dire que le Mage a eu quand même, pas seulement le flair, mais le goût, le sens de détecter un livre important, qui n'était évidemment pas dans les librairies. Ça, c'était l'erreur de précipitation que j'ai commise. J'ai parlé d'un livre auquel personne ne pouvait avoir accès. Mais c'est pas grave, peut-être certains s'en sont souvenus plus tard. En tout cas, tous les hommages qu'il fallait lui ont été rendus plus tard. Et donc, l'erreur a été ainsi réparée. Mais tout de même, il fallait rendre l'hommage qui lui est dû à la maison qui nous accueille. Eh bien, bon, assez bavardé. Donc, rebonsoir Yannick Hennel. Vous avez accordé beaucoup d'entretiens, donné des interviews, on a beaucoup parlé de vous, mais avec votre accord, et si personne n'y voit d'objection, on va faire comme si on était ensemble en train de découvrir ce livre, ce qu'on pourrait appeler une lecture directe, naïve, non pas la lecture des lectures et de ce qui s'est dit et pas dit. Non, on va rentrer dans le livre pour ce qu'il est, donc je vais vous poser la question la plus simple du monde, auquel vous apportez une partie de la réponse, mais je voudrais simplement qu'on la prolonge, c'est, si j'ose dire, votre rencontre avec Yann Karski. Donc, je résume le propos de base, c'est, vous faites, entre guillemets, connaissance, en voyant donc la partie de la Shoah de Claude Lanzmann, dans lequel, donc le témoignage, une partie du témoignage de Yann Karski, mais vous allez revenir sur ce détail qui n'en est pas un, donc est présenté. Mais, après tout, ça ne justifie pas forcément l'envie d'écrire un livre. Donc, ça commence comment ?
Bah écoutez, ça commence sans envie d'écrire un livre, forcément. Ça commence comme tous les gens qui regardent Shoah de Lanzmann, c'est-à-dire ça commence depuis une position de spectateur. Et au fond, ce qui s'est passé, c'est que parmi tous les témoins qui parlent dans le film de Claude Lanzmann, il y en a plusieurs qui, je suppose que c'est pour vous, qu'il en est pour vous de même, il y en a plusieurs qui m'ont poursuivi. Et celui, je dirais, pour des raisons que peut-être on développera, mais celui qui m'a poursuivi le plus longtemps, c'était Yann Karski. C'est-à-dire que plusieurs années après avoir vu le film. Je l'avais vu une fois pour des raisons presque professionnelles. À l'époque, j'étais professeur de lettres et je travaillais avec mes élèves de terminale sur le livre de Primo Levi, Si c'est un homme. Et je sentais bien que mes élèves étaient à la fois bousculés par le livre de Primo Levi, passionnés mais terriblement anxieux à l'idée de ne pas être à la hauteur de ce qui se disait dans le livre. Et je voulais leur faire entendre une parole vive. Et ce que j'ai fait durant cette année-là, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir inviter à deux reprises des personnes qui ont été déportées. Je dis la chance parce que ce qu'on a pu entendre grâce à ces personnes dans ce lycée où je travaillais à l'époque-là est inestimable. Et je dis la chance aussi parce que ces deux hommes depuis sont morts. Et c'est, je dois dire, c'est l'une des raisons pour laquelle un jour je me suis dit que peut-être un livre serait nécessaire concernant Karski, c'est-à-dire la disparition des témoins. Et donc je leur ai passé des extraits de Shoah à mes élèves. Et parmi ces extraits que j'avais voulu passer, il y avait le 5 minutes de l'entretien que Karski a avec Claude Lanzmann. Et c'est en, si je puis dire, en voyant mes élèves regarder Karski, que j'ai réalisé à quel point, au fond, il était question dans ce que disait Karski, mais sans doute dans ce que disent tous témoins, il était question d'une histoire de la transmission, une histoire qui dépassait et Karski et Lanzmann, une histoire qui venait de bien plus loin, en l'occurrence qui venait du ghetto de Varsovie, et une histoire qui se poursuivait dans la salle, tout simplement, avec des jeunes gens de 17 ans. Et là, je n'ai plus seulement été spectateur. Je me suis dit que tous dans cette salle, nous vivions en tant qu'acteurs ce qui était en train de se passer, que j'appelle, faute de mieux, l'histoire de la transmission. Et dans la salle, dans ma salle de classe, enfin je dis bah, parce que quand on est prof, on parle de ses élèves au possessif, par affection, mais c'est un peu abusif, mais dans la salle, je dirais toute croyance, toute religion confondue, j'en parle parce qu'on en a parlé le lendemain. Certains étaient juifs, d'autres non-juifs, il y a des musulmans. Et en fait, une chose une chose semblait claire pour tout le monde, c'était que cet homme-là, Ian Karski, était un homme, au sens où Primo Levi dit « si c'est un homme ». Et à partir de là, je l'ai raconté plusieurs fois, peut-être cette chose-là, mais je ne sais pas si je suis désolé de me répéter, mais la répétition fait aussi partie du projet.
On n'avait voilà, rien entendu, et, on découvre tout.
Ouais, la répétition, et je ne me lasse pas de raconter ça parce que, très modestement, je trouve ça très beau, mais je n'y suis pour rien en fait. C'est que, au fond, on s'est dit ce jour-là, enfin le lendemain du jour où j'ai projeté à mes élèves de terminale des extraits de Shoah de Lanzmann, où ils ont fait la connaissance de Ian Karski, on s'est dit que ce qui serait beau, ce serait qu'à une trentaine, on était une trentaine, on se mette à écrire ensemble, qu'on se mette à enquêter et à écrire sur enfin, l'histoire de tous les gens qui parlent dans Shoah de Claude Lanzmann. Et ce rêve un peu fou, en fait, auquel je pense parfois avec nostalgie, moi je ne l'ai réalisé qu'en partie, puisque j'ai écrit un livre sur Karski, mais ce jour-là, je me souviens très bien que notre idée, c'était d'écrire un immense livre où on essayerait de raconter l'histoire de tous ceux qui parlent dans Shoah, c'est-à-dire de raconter comment ils vivaient avant de parler à Claude Lanzmann et après. Ben j'espère que ce projet fou aura lieu un jour. Enfin, on peut se mettre à plusieurs. Enfin, la proposition est encore, je ne sais pas, enfin, j'en parle. Et voilà, ça a commencé comme ça. Ça a commencé par le fait que j'avais vu, comme beaucoup d'entre nous, Shoah de Claude Lanzmann. J'avais aimé et admiré Karski, entre autres. Mais je l'ai surtout vu avec les yeux d'adolescent. Et avec l'idée, et je termine cette genèse par ça, avec l'idée que il me semblait, je ne sais pas, je ne trouve pas le mot, pas utile, ni nécessaire, peut-être nécessaire, je ne sais pas, mais après tout, qu'est-ce qui est nécessaire, je ne sais pas. Mais je me suis dit que voilà, il fallait faire quelque chose pour lui. Je me suis dit, cet homme qui parle à Claude Lanzmann, cet homme qui est si bouleversant et si bouleversé, au point qu'à un moment il s'échappe, comme vous vous souvenez, il s'échappe de la caméra, enfin il s'échappe du champ, et on voit une place vide qui s'adresse à chacun de nous, et à la place vide qu'il y a en chacun de nous, je me suis dit que cet homme, je ne pouvais pas le... Enfin, je ne sais pas comment le dire, là, vraiment, enfin, il fallait quelque chose. J'ai eu envie de faire quelque chose pour lui, je dis ça, alors que c'est un peu grandiloquent, mais voilà, j'ai pensé que j'avais envie de... pas de m'occuper de lui, mais de continuer à être occupé par lui. Et des années se sont passées, et en un sens, je n'y ai plus pensé directement, sauf qu'un jour, je me suis retrouvé en Pologne, parce que j'écrivais un livre, mon précédent livre, qui s'appelle Cercle, et pour les besoins de ce livre, je me suis retrouvé à Varsovie, en 2004 peut-être, tout seul, enfin à errer en Pologne, dans l'état dans lequel j'étais à l'époque, c'est-à-dire un peu errant, enfin un peu divagant même. Et à l'époque, j'avais déjà dit que j'allais m'arrêter. Je suis désolé, j'ai déjà...
N'hésitez pas.
Mais je vais m'arrêter. Et à l'époque, je m'étais dit que je voulais... Et j'assume la bêtise de cette phrase. Je voulais voir le ghetto de Varsovie. Ce qui est... Bien entendu, je savais, comme nous tous, que Varsovie avait été rasée. Mais je voulais voir de mes yeux ce qu'on ne peut plus voir. Je voulais voir la disparition du ghetto. Je voulais voir les rues où le ghetto avait été et où quelque chose d'autre est maintenant. Et donc j'y suis allé pour ça. Et ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que pour ce livre, qui est un roman d'aventure, disons, à un moment... En pleine rue de Varsovie, j'ai eu une réminiscence très violente du visage de Karski. Et j'étais en train de finir Cercle, enfin comme je pouvais, et c'est là que je me suis dit, si j'y parviens, si je parviens à finir ce livre, je vais écrire un livre sur et pour Jan Karski. Et je savais une chose, en tous les cas, c'était que ce livre s'appellerait Jan Karski, ça c'est très important pour moi. C'était pas mon idée, c'était pas d'écrire une biographie de Jan Karski, c'était d'écrire un livre qui soit, et je sais que c'est problématique, mais qui soit Jan Karski, avec l'idée qu'on puisse le nommer, qu'on puisse dire j'aimerais lire Jan Karski.
Donc on va y revenir, évidemment c'est la part essentielle. Donc votre livre, on le rappelle rapidement, tout le monde l'ayant probablement lu, est composé de trois parties. Donc la première qui reprend donc l'entretien reproduit dans Shoah de Claude Lanzmann, une deuxième partie qui en fait est une, bon, allez, on va employer un terme trivial, une longue fiche biographique de Jan Karski d'après lui-même d'une certaine façon, et puis la troisième partie qui justifie si besoin était le titre de roman que vous donnez, qui est donc qui répond en fait à votre projet sur lequel on va évidemment s'arrêter. Mais juste avant cela, d'abord il me vient une question anecdotique. Au moment où vous racontez que vous êtes devant vos élèves à débattre autour de si c'est un homme de Primo Levi, vous êtes d'une certaine façon, à distance, un collègue de Jan Karski, qui donne des cours donc et qui parle à des étudiants. Et il y a, pardon pour cette question très anecdotique, mais je me suis toujours posé cette question, vous allez peut-être pouvoir m'y répondre. Ensuite, on revient à l'essentiel. Quand Jan Karski raconte qu'il... Alors, il fait un cours sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, pour dire vite. Quand il arrive à des questions précises, et notamment au procès de Nuremberg, donc on est en 1945, et on va revenir sur l'importance, évidemment, de cet épisode, qui n'en est pas un dans l'histoire de Jan Karski, on va comprendre ensuite pourquoi. Il dit, mes élèves cessent de prendre des notes et d'écrire, et se croisent les bras pour m'écouter. Est-ce que, quand vous sortez, si j'ose dire, de votre cours, quand vous sortez du schéma de votre cours, vous êtes toujours face aux élèves, Est-ce que vous avez noté des choses de ce genre? Je ne comprends toujours pas pourquoi les étudiants de Jan Karski, prof cette fois, cessent d'écrire. Alors, vous nous direz ensuite que c'est un moment très émotionnel pour Jan Karski. Mais quand on en arrive à ce stade, les élèves cessent d'écrire et croisent les bras.
Mais dans le livre, effectivement, je pose la question de savoir si quand les étudiants de Jan Karski croisent les bras, c'est parce qu'ils ne sont pas contents et en un sens protestent contre ce qui se dit, qui n'est pas conventionnel, ou si c'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas besoin de prendre de notes, puisque précisément ce qui est en train de se dire, ils s'en souviendront toute leur vie. Mais j'ai imaginé ça.
C'est peut-être pas si anecdotique que ça.
Alors j'ai imaginé, là c'est pour ça qu'on va y revenir sans doute, c'est un roman aussi. J'ai imaginé parce que je l'ai vu, j'ai été professeur pendant 17 ans, j'ai vu qu'il y avait des moments en classe, aussi bien en 6e qu'en terminale, il y avait des moments où ça arrivait, et je n'ai jamais compris ce qui se passait à ce moment-là. Je me demandais si j'étais en train de dire particulièrement des bêtises, ou si c'était particulièrement passionnant, et je dois dire que cette ambiguïté n'est pas levée. Enfin, il y a des moments où effectivement il y a une concentration qui est tellement, j'allais dire extrême, mais non, qui est tellement là que les élèves en oublient qu'ils sont des élèves et que donc ils ne prennent pas de notes parce qu'ils sentent bien que c'est pas qu'on les interrogera pas là-dessus, mais c'est que ça y est, ils le savent, c'est en train d'être dit. Donc j'ai prêté ça aux étudiants de Karski. Il n'y a pas de renseignement biographique sur ce qui se passe dans une classe, encore moins celle de Karski. Oui.
Alors, bien évidemment, là on vient de sauter toutes les étapes, puisqu'on parle de la deuxième partie de la vie d'Jan Karski, il est aux États-Unis, il est prof, on verra ensuite dans quelles conditions, donc peut-être qu'il est temps de reprendre l'histoire dans le bon ordre. Ouais. Précisément, quand vous voyez le film de Lanzmann, de Claude Lanzmann, donc dans Shoah, les 40 minutes de Jan Karski portent sur cet épisode dont vous allez nous reparler. Vous pouvez même lire le passage si vous le souhaitez, mais donc l'épisode évidemment central qui est et les conditions dans lesquelles il se passe sont évidemment décisives, dans lesquelles donc deux représentants des organisations juives, un représentant du Parti socialiste juif, le Bund, et un représentant de l'organisation sioniste, conciliés pour organiser ce qui sera la révolte du ghetto de Varsovie, vont l'emmener dans le ghetto. Cet épisode est évidemment extraordinaire, extravagant même à bien des égards. Mais c'est un, si j'ose dire, non pas par l'importance qu'il va prendre dans l'histoire, mais dans le temps, dans la temporalité, c'est un épisode petit. Or, quand on a vu cela, on n'imagine pas, je suppose, quel est le personnage qui... il y a le témoin, Dieu sait si vous y référez, le témoin Jan Karski, qui retient, si j'ose dire, exclusivement l'attention de Claude Lanzmann, non pas réalisateur, mais monteur, parce que, en fait, l'entretien dure 8 heures, c'est ça l'entretien original, et on n'en voit que 40 minutes, mais Claude Lanzmann s'intéresse précisément à cet épisode, en effet, à la fois bouleversant et central, de la visite de Jan Karski dans le ghetto, mais on ne peut pas imaginer, en regardant ces 40 minutes, quel est cet étrange personnage. Une espèce d'aventurier, un peu espion, un peu agent secret. Si n'étaient les circonstances extraordinairement dramatiques, évidemment, de ce passage, c'est un roman d'aventure, en effet, formidable, c'est une épopée. Et alors, comment, de cet épisode, vous arrivez à reconstituer, c'est quoi? C'est une longue enquête, c'est la vie tout à fait extraordinaire, il faut bien dire, de Jan Karski. D'ailleurs, vous allez peut-être nous la résumer. Le livre commence en juillet 1939. Enfin, il y a un commencement avant le commencement aussi.
C'est-à-dire que, comme on l'a dit, ça commence par ce que dit Karski de sa double visite dans le ghetto de Varsovie et la manière dont il raconte ce qu'il a vu et entendu et même appris par cœur. Il raconte ça à Lanzmann. Mais effectivement, après avoir vu ces 40 minutes, qui sont choisis par Claude Lanzmann pour être insérés dans son film, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à toutes sortes de personnes qui témoignent du processus de l'extermination des Juifs d'Europe, et pas à leur vie, avant ou après. Quand on a vu ces 40 minutes, en un sens, on ne peut pas ne pas se demander, comme vous le dites, qui est cet homme, et Qu'est-ce qu'il a fait de ce message? Parce qu'à plusieurs reprises, ce qui est frappant, comme vous le savez, dans cet entretien, c'est qu'il dit que les deux leaders juifs du ghetto lui disent de bien retenir ce qu'ils sont en train de lui dire. Et ils lui disent qu'il pourra le redire aux alliés, qu'il faudra le redire aux alliés. Donc évidemment, à ce moment-là, on ne peut pas ne pas se dire que Yann Karski a sûrement porté ces phrases et porté ce message quelque part. Et comme on sait ce qui a eu lieu, on ne peut pas non plus ne pas se dire que sa mission a échoué. Et donc très simplement, mais comme tout le monde peut le faire, je suis allé me renseigner sur Yann Karski. Et je suis tout de suite tombé sur ses mémoires. À l'époque, ses mémoires étaient disponibles. Aujourd'hui, ils sont tout à fait épuisés et seront réédités, d'après ce qu'on m'a dit, au mois de janvier, je crois. Mémoire qui s'appelle « Histoire d'un état secret », qui porte sur, non pas sa vie, mais sur son expérience de la guerre et de la résistance en Pologne. Mémoire que Karski a rédigé à la demande du gouvernement polonais en exil en 1944. La date est importante, puisqu'évidemment, ce qu'il raconte s'arrête en 1944. Et dans ses mémoires, en un sens, on a la suite de ce qu'il dit à Lanzmann, à savoir que Yann Karski est allé porter le message des Juifs du ghetto de Varsovie en Grande-Bretagne, dans l'entourage de Churchill fin 1942, puis à Washington début 1943, où il a rencontré Roosevelt.
Et, je vous interromps. Mais... Là, on est trop lourd. Enfin, on va évidemment revenir. Mais il faut tout de même imaginer, c'était la question la plus bête du monde qu'on se pose. On est donc, ça se passe en août 1942, le ghetto est totalement encerclé dans les conditions épouvantables que l'on sait. Il y a en effet des accès, mais qu'on ne peut franchir qu'avec une audace folle et au péril de sa vie. Ça sert parfois à faire quelques trafics, c'est ce qui a permis, enfin entre autres, d'importer quelques armes, d'échanger quelques marchandises. En tout cas, c'est une... on n'entre pas et on ne sort pas du ghetto pour l'homme qui va... Alors, bien sûr, il y a deux hommes qui prennent encore plus de risques, d'ailleurs, ne sont bientôt plus là pour le redire, mais l'homme qui accepte d'aller voir, il faut tout de même, comme disait Miouet, en avoir. Le Yann Karski qui va entrer à deux reprises du reste dans le ghetto, ensuite... On repartira là où vous en étiez, oui. Ce qu'il vut et le message dont il est porteur. C'est déjà pas n'importe qui.
Ben, en effet, c'est cet homme a quelque chose qu'on pourrait appeler la noblesse d'esprit, en fait. On s'en aperçoit tout de suite dès qu'on l'entend parler dans Choix. Il a quelque chose de très singulier qui est lié à ce courage insensé, un peu trompe-la-mort, de la noblesse. Je ne parle pas de la noblesse de sang, je parle de la noblesse d'esprit. Et quelque chose qui fait qu'il est capable de se vouer spirituellement à ce qu'il fait. Ce qui est très frappant chez Yann Karski, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui, jusqu'au bout de sa vie, ça c'est mon intuition de romancier et d'admirateur de Karski, je pense que jusqu'à la fin de sa vie, c'est quelqu'un qui reste indemne du mal. On peut tous être avilis par les expériences qu'on traverse. C'est comme si Karski... C'est tout à fait improuvable, mais c'est comme si Karski restait indemne de tout ce qu'il a traversé. Je veux dire par là que, ayant été bouleversé à l'extrême par tout ce qu'il a vu et fait, il n'est pas tombé du côté de l'avilissement. Et je pense que ça lui vient de quelque chose qui avait lieu avant, à savoir que Karski, au tout départ, est un jeune intellectuel, disons, qui se voue à une carrière de diplomate, enfin il se rêve comme ça aristocrate, c'est un fils de bourrelier, c'est quelqu'un qui est capable, enfin qui a une immense endurance, et qui apprend très vite, et qui a le goût de la clandestinité et du secret. C'est pour ça que vous avez raison de dire que c'est un aventurier. En un sens, jusqu'à 1939, il joue à être ce qu'il est, ou plutôt à être ce qu'il n'est pas. Et arrive la mobilisation en Pologne en 1939, et Karski, il le dit dans ses mémoires, pense vraiment, comme la plupart des Polonais à l'époque, qu'ils vont bouter Hitler hors de la Pologne.
Donc je vous interromps 30 secondes, il a 25 ans.
Il a 25 ans.
Donc à ce moment-là, Il est, du fait de ses études, je suppose, donc sous-officier dans la réserve. Et il est mobilisé, donc on est juste au moment de l'invasion allemande de la Pologne, il est mobilisé dans un endroit assez particulier de la Pologne.
En effet, l'un des lieux de ralliement de tous les, enfin de la plupart des Varsoviens, enfin ceux qui sont mobilisés depuis Varsovie, c'est un lieu qui s'appelle Oswiecim, je suis désolé, je le prononce très mal, c'est-à-dire Auschwitz. Un an avant la construction du premier camp d'Auschwitz, Auschwitz 1. Et par ironie du sort, enfin si je puis dire, dans la vie de Jan Karski et de tous les Polonais mobilisés, c'est là que va commencer la guerre pour lui et pour les autres.
Et s'achever.
Et s'achever, en effet, très vite.
Parce que c'est là, vous allez reprendre le fil de votre récit, oui. C'est là que le destin de Jan Karski bascule. Il s'était rêvé aventurier, il se réveille soldat en déroute, enfin sous-officier en déroute, et il va connaître là un itinéraire qui, si on n'était pas dans ce cadre-là, serait l'itinéraire d'un grand roman picaresque. Cette déroute va le conduire chez les Russes, donc, du côté soviétique bien sûr. Il va repasser de là du côté allemand, d'un camp à l'autre. Je vous rends la parole pour l'histoire.
Oui, c'est-à-dire que comme tous les Polonais à l'époque, il est pris en otage de ce pacte qu'on appelle le pacte germano-soviétique. Jan Karski a ceci de particulier qu'il a été fait prisonnier par les soviétiques et il s'est évadé d'un camp soviétique avec une ruse qui lui a sauvé la vie. C'est-à-dire que normalement, vu son statut dans l'armée polonaise, il devait finir à Katyn, puisque, comme vous le savez, les soviétiques avaient décidé de s'en prendre pour commencer à l'intelligentsia polonaise afin d'anéantir le pays, de le priver d'avenir et de faire de ce pays, selon les clauses du pacte germano-soviétique, disons un terrain de pure main-d'œuvre, un terrain d'esclaves. L'esclavage. Et donc Karski, effectivement, en se faisant passer pour un soldat, en se faisant passer pour un ouvrier, en fait, réussit à échapper à la sélection qui va mener les officiers et les sous-officiers. 25 000. Dès 1940 à l'exécution. Après, très vite, il est capturé par la Gestapo, il est torturé par la Gestapo, et là aussi, dans une scène, je ne sais pas comment dire, enfin, ahurissante de sa vie, il parvient, avec l'aide de la résistance polonaise, il parvient à s'évader des griffes de la Gestapo, après avoir été torturé et avoir tenté deux fois de se suicider. Voilà, c'est le suicide.
Et alors qu'on vient de lui fournir la capsule de cyanure qu'il demandait pour finir avec les tortures.
Mais c'est le suicide qui lui sauve la vie, c'est pas vraiment un paradoxe, mais en tentant de se suicider, quelque chose a lieu qui fait qu'il va être sauvé. Enfin, c'est très... à la fois très compliqué, très simple. Enfin, il a une nausée, il n'arrive pas à supporter le fait de s'être ouvert les veines. Et en vomissant à l'extrême, ça le sauve de la mort qui était en train de l'emporter. Et c'est quelqu'un qui a cette expérience très vite, enfin en quelques mois, alors qu'encore une fois, comme vous dites, il a 25 ans. C'est quelqu'un qui a très vite l'expérience radicale, pas seulement de la guerre, mais de ce qu'on peut faire subir à des êtres humains, et en l'occurrence à lui. Mais là où sa vie m'a passionné, c'est seulement à partir du moment où s'opère une métamorphose. À savoir que cet homme, qui est un patriote polonais très catholique, et qui, comme tous les Polonais patriotes très catholiques comme lui, pense avec raison que la Pologne est abandonnée du monde, et du monde occidental, puisque politiquement personne ne bouge en 1939 pour venir à leur aide. Ce qui m'intéresse, c'est que cet homme va s'apercevoir qu'il y a beaucoup plus abandonné que la Pologne, que les catholiques polonais, disons, que les gens comme lui, sont les juifs. À partir du moment où il entre dans le ghetto de Varsovie, cet homme, et il le redit 35 ans après devant les caméras de Lanzmann, cet homme se métamorphose spirituellement, existentiellement, et je dirais sur tous les plans. Et c'est là que Jan Karski devient ce que Claude Lanzmann appelle le grand Karski. C'est-à-dire que bon, c'est un homme courageux, un homme qui arrive, qui est tellement rusé qu'il arrive à échapper aux Soviétiques et aux Allemands. Mais il y en a beaucoup dans la guerre, dans tous les pays. Enfin, je veux dire, il y en a beaucoup. C'est un homme exceptionnel, mais là où il devient plus qu'exceptionnel, c'est au moment où il est chargé du message des Juifs d'Europe. Parce que, après tout, comment dire, la décision d'aller porter au péril de sa vie et d'insister à ce point pendant un an et demi pour répéter ce message, la décision vient à la fois des chefs de la résistance polonaise, l'armée intérieure, l'AK, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire qu'à un moment, Karski pouvait réciter une fois le message et penser à autre chose. Or, cet homme ne pense plus à autre chose. C'est là qu'à mon sens, il devient vraiment Jan Karski.
Alors peut-être, il faut... Allez, on va quand même ajouter une petite précision de récit. Donc, héros, aventurier, trompe-la-mort... On peut l'imaginer, en plus beau jeune homme, vigoureux, on peut l'imaginer les armes à la main, montant des embuscades. Alors pas du tout. C'est, alors, sa culture, sa connaissance des langues, le rend utile à d'autres tâches, en effet pour l'organisation de la résistance polonaise, mais ce personnage l'habite aussi. Il est, alors, d'une certaine façon, un témoin professionnel. Il entre dans la résistance comme un témoin professionnel, si j'en dis. Il va apprendre des messages qu'il est chargé de transmettre. Bien avant la mission sur laquelle nous allons nous arrêter, donc après la double visite du ghetto, il a déjà franchi les frontières pour aller rendre visite à la première version du gouvernement polonais en exil, donc qui était à Angers, en France. Donc il a déjà passé toutes les frontières, il est revenu. Tout cela qui, mine de rien... n'est pas totalement commun.
En effet.
Mais c'est à chaque fois, et c'est ce petit point qui probablement va donner tout son sens à la suite, parce que ça lui permet de le porter, le message va devenir en effet pratiquement le principe de sa vie, porter des messages est une sorte de vocation, si l'on ose dire. Et le péril, c'est pas le péril de sa vie dans la guerre... viril, les armes à la main. Non, c'est je porte des messages, je raconte l'histoire, j'apprends par cœur l'histoire. Évidemment, là on en arrive à l'épisode. Mais donc il y a eu plusieurs épisodes avant. C'est pour ça que ce que retient Claude Lanzmann est certes capital, mais on ne peut réellement le comprendre qu'en imaginant qu'entre 25, 26 et 27 ans, c'est-à-dire ce jeune homme est en grosso modo a échappé 3 ou 4 fois, d'ailleurs même au moment de la débâcle de l'armée polonaise. Tout le train dans lequel il prend place est quasiment bombardé, son wagon, enfin je l'apprends par vous, hein. Son wagon est à peu près le seul qui en réchappe. Ensuite, il y a les épisodes que vous avez racontés, les tentatives de suicide, les tortures. Bref, en gros, il a affaire aux pires polices et aux pires tortionnaires du monde dans les deux camps, brièvement alliés, ensuite opposés. Et tout frais, tout guiret, on lui dit... Donc il reçoit ces deux juifs clandestins dont on imagine qu'ils ne sont pas eux au mieux de leur forme, qui lui disent on a un petit supplément pour vous. Et là commence, alors cette fois le passage, mais on s'y arrête un peu plus cette fois.
Le passage du ghetto de Varsovie.
Voilà, mais la porte qui permet d'entrer dans le ghetto. Enfin, aucun, vous avez beau dire que c'est un roman, un romancier n'aurait pas imaginé ça.
Alors c'est compliqué, si on parle du roman, enfin, je ne sais plus de quoi...
Le ghetto est ce qui va.
Il y a 10 000 choses à dire. Après je parlerai de la forme du livre, c'est très important pour moi, parce que c'est aussi un roman. Ce que Karski raconte concernant sa double incursion dans le ghetto de Varsovie, au départ, fait partie de sa mission. Ça n'est qu'une partie de sa mission de messager. D'après ce qu'il raconte dans ses mémoires et ce qu'il redit 35 ans plus tard à Lanzmann, il était sur le départ pour Londres, puisque comme vous le savez, la Pologne n'a pas collaboré politiquement avec les nazis. Le gouvernement est tout de suite parti. Donc en exil à Angers, à Paris, puis à Londres. Donc Karski fait partie des messagers, il n'est pas le seul. Il y en a un autre qui est très connu qui s'appelle Jan Novak, qui vient après Karski, et qui a aussi écrit un très beau livre. Et effectivement, au tout départ, il y a des contacts entre la résistance intérieure, enfin l'armée intérieure, la résistance polonaise, et le ghetto de Varsovie. Et deux leaders, effectivement, du ghetto de Varsovie sont au courant d'un voyage de Jan Karski qui va avoir lieu. Et donc, ils demandent à voir Karski. Et là, Karski a passé, vous parliez de la deuxième partie de sa vie, Karski a passé, après que Lanzmann l'a sorti de l'oubli, parce que c'est à Claude Lanzmann qu'on doit ça, après la guerre, Karski n'a plus parlé pendant 35 ans, c'est Lanzmann qui va le chercher, qui va le faire parler. Karski n'a plus arrêté après de parler. Karski raconte que... Je vais avoir du mal à parler de... Enfin, je vais pas redire ce que dit Karski, c'est affreux. Enfin, mais en tous les cas, ce qui a lieu à ce moment-là pour Karski, c'est qu'il entre, comme il le dit, avec des mots qui sont à la fois extrêmes et maladroits, parce qu'il ne trouve pas les mots. C'est ça qui est très beau chez lui, c'est qu'il sent bien que les mots « humanité » qu'il prononce une dizaine de fois dans ces 40 minutes, le mot « mal », le mot « enfer », ce sont les seuls mots qu'il trouve, et il sent bien que ce sont des mots qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'il voit et de ce qu'il entend. Et moi, ce qui m'a frappé dans le témoignage de Jan Karski, c'est qu'il se soustrait sans cesse au fait de témoigner. Et il est possible, enfin, dans le fond, quand on écoute la parole de Karski et la parole d'autres témoins, on se rend bien compte que, qu'au fond, Karski préférerait ne pas témoigner, au sens où il aurait préféré ne pas être là. Il aurait préféré ne pas voir ce qu'il a vu, il aurait préféré que ça n'existe pas. Et il le dit d'ailleurs parce qu'il parle au présent. Et au tout début de l'entretien avec Lanzmann, il dit « je retourne en arrière ». Puis il se reprend et dit « non, je ne retourne pas, je ne veux pas, je ne peux pas retourner ». Et tout ce qu'il dit, il le dit au présent et donc il le revit. Et ce qu'il voit, comme vous le savez, sont des cadavres dans la rue, sont des enfants, comme il dit, aux yeux fous. Et ce qu'il voit également, et ce dont il va témoigner, c'est ce qu'il appelle, et ce que les deux hommes appellent, la chasse. C'est-à-dire, en pleine rue du ghetto de Varsovie, c'est-à-dire en pleine rue de Varsovie, deux jeunes hitlériens, les Hitlerjungen, qui passent, parce que c'est un raccourci pour eux pour rentrer chez eux, donc ils passent dans le ghetto, et ils tirent au pistolet pour s'amuser sur les juifs qui sont là. Et Karski assiste à ça, et évidemment, non seulement ne comprend pas, mais s'effondre. Et ce que Karski va tenter de transmettre, encore une fois en Angleterre et aux États-Unis pendant un an et demi, parce que Karski va parler du matin au soir à des dizaines et des dizaines de gens en leur récitant ce que les deux leaders juifs lui ont dit de transmettre, mais également en redisant ce qu'il a vu, en essayant de trouver des mots pendant un an et demi, c'est précisément l'incompréhensible. Il va dire qu'il a vu quelque chose mais qui n'est tout simplement pas... qui n'est tout simplement pas... C'est pas que ce soit pas transmissible. Il voit très bien qu'on peut transmettre ce qu'on ne comprend pas. Mais c'est quelque chose qui n'a pas encore de mots, voilà. Et le mot « extermination » est un mot qui ne peut pas être prononcé par lui à ce moment-là. Il ne comprend pas qu'il s'agit d'un processus. On a beau lui dire... les deux hommes lui disent que ce qu'il voit dans le ghetto de Varsovie est un moment d'un processus qui est celui d'une mise à mort qui n'a rien de comparable avec toutes les mises à mort qui ont eu lieu dans l'histoire de l'humanité, puisque c'est une mise à mort concernant un peuple en entier. Car ce qu'il redit, il va redire ça sans le comprendre.
Alors, pour le dire très vite, comme ça je vais vous l'épargner, on reviendrait éventuellement sur... ça implique évidemment beaucoup de choses. En effet, il parle tout le temps quand il est à Londres, puis ensuite quand il sera à New York, puis à Washington. Mais il rencontre évidemment les gens qu'il faut rencontrer, outre le gouvernement polonais en exil, qui ne veut pas grand-chose. Il rencontre d'ailleurs l'une de ses idoles intellectuelles, qui est donc le ministre britannique des Affaires étrangères, Anthony Eden. Et puis ensuite, à Washington, après avoir rencontré, outre évidemment beaucoup de gens d'intellectuels, d'écrivains, il rencontre le président Roosevelt en personne. Oh, et ce n'est pas rien. Et donc, pour à la fois transmettre le message et dire, je résume là très grossièrement, non seulement il faut faire quelque chose, mais il faut le faire tout de suite. Oui. On laisse, si j'ose dire, on laisse ça de côté, parce qu'on arrive à la part essentielle, enfin, essentielle, tout est essentiel dans votre livre, mais à la part la plus bouleversante, d'une certaine façon, de votre livre, la première partie, on l'a dit, est rôtie, c'est donc... le compte-rendu des 40 minutes d'entretien dans Shoah de Claude Lanzmann. La deuxième partie, c'est donc une fiche biographique. Donc en gros, Karski par lui-même, retranscrit par Yannick Enel pour retracer tous ces épisodes. Et la troisième partie, là, c'est tout à fait autre chose. Yann Karski parle à la première personne.
Oui. Là, effectivement, il y a des choses essentielles à dire sur le. Avant de dire ce que Karski, ce que je fais dire à Karski, c'est que autant les deux premières parties du livre sont, pour parler en termes de cinéma, sont documentaires, autant la troisième partie relève de la fiction. Alors évidemment, dans mon esprit, le mot fiction n'est absolument pas synonyme de faux. Je dirais que l'équivalent pour moi de la fiction, c'est l'intuition. Enfin, pour moi, j'ai écrit une fiction intuitive. Il se trouve que d'une part, sur Yann Karski, à partir de 1944, date à laquelle il publie ses mémoires, on ne sait plus grand-chose. Il apparaît chez certains historiens, très brièvement, il apparaît chez Friedlander, vous en aviez parlé lors de votre émission, ça a 4 ou 5 reprises dans le magnifique livre de Friedlander. Il apparaît de ci, de là, avec même des erreurs. Enfin, mais c'est quelqu'un dont on ne sait pas grand-chose de 44 à 2000, date de sa mort, pour la simple raison que c'est quelqu'un qui ne va pas beaucoup se manifester. C'est quelqu'un qui ne reprend plus la parole avant que Claude Lanzmann, dans les années 70, ne la lui offre. Et moi, je me suis posé une question très simple. C'est comment cet homme, qui raconte dans son livre... qu'il va porter le message du ghetto de Varsovie en Angleterre et en Amérique de 42 à 43, comment cet homme a vécu le fait que de 42 à 43, son message soit n'a pas été entendu, soit a été reçu avec indifférence, soit a été traité dans la documentation de l'époque, mais en tous les cas, comment est-ce qu'il a vécu l'inaction des Alliés de fin 42 à, je dirais, début 44, puisque, comme vous le savez, le premier discours, je dis bien discours, hein, pas acte, le premier discours de Roosevelt en faveur des Juifs d'Europe date de mars 44. Yann Karski rencontre Roosevelt en début 43 et a déjà informé... Avril, je crois. Et il a informé les Alliés, enfin les Britanniques, fin 42. Donc je me suis simplement demandé, enfin simplement, c'est pas simple, mais je me suis demandé comment, après la guerre, à partir de 1945, quand il apprend par les journaux américains, puisqu'il est resté aux États-Unis, quand il apprend que la guerre est finie, quand il lit le mot victory dans les journaux américains, comment est-ce qu'il le prend, ce mot victory? Moi j'ai pensé, c'est une intuition, mais elle est très discutable évidemment, mais précisément c'est en cela que je plaide pour la fiction, c'est que j'espère que d'autres livres s'écriront sur Yann Karski. J'ai pensé que Yann Karski, quand il avait lu le mot victoire, n'avait pas pu supporter ce mot et que pour lui, un monde dans lequel l'extermination des Juifs d'Europe avait eu lieu, un monde dans lequel le message du ghetto de Varsovie n'avait pas été entendu, en tous les cas c'est ce qu'il a pensé, que ce message n'avait pas été entendu, ce monde n'était pas et ne pouvait pas être un monde victorieux, qu'il y avait une indécence dans cette victoire. C'est une victoire qui évidemment est tout à fait heureuse. Les nazis ont été battus et je pense que Jan Karski, de manière raisonnable, devait se féliciter de cette victoire. Sauf que chez Jan Karski, avec le savoir qu'il avait, avec un certain savoir sur l'inaction, savoir que je continue à interroger aujourd'hui parce que je continue à recevoir des témoignages de gens qui ont connu Karski, je continue à mener l'enquête. Je me suis dit que ce Jan Karski, d'une part, n'avait plus cessé de se réciter ce message qu'il n'avait pas réussi à délivrer et dont il ne s'était pas délivré, et que Jan Karski, sans doute, n'avait plus vraiment trouvé le sommeil. Et c'est ce qui m'a décidé à, puisqu'on ne sait pas grand-chose de la vie de Jan Karski de 1945 à 2000, à part le fait qu'il devient professeur à Columbia, donc à Washington, puis à, non, pardon, à Georgetown, c'est-à-dire Washington, puis à Columbia, à New York, mis à part le fait qu'il rencontre Claude Lanzmann, mis à part le fait qu'il épouse Paula Nirenska, une chorégraphe juive polonaise, c'est ce qui m'a décidé à entrer par nécessité, parce que le moyen de faire autrement, c'est ce qui m'a décidé à entrer dans la fiction. Je me suis dit qu'au fond, il n'y avait pas d'autre moyen parce que je ne suis pas historien. Et au moment où j'écrivais ce livre, les questions que je me posais n'étaient pas des questions d'historien. C'était, encore une fois, non pas me mettre à la place de Jan Karski, qui est un geste que j'assume, qui est un geste de littérature, au sens noble du terme, mais ce n'était pas tant ça que cette question, qui est pour moi infinie, presque philosophique, mais plus que philosophique, c'est comment est-ce qu'on vit quand on a été le porteur du message le plus important du monde, qu'on est sorti, qu'on s'est évadé d'un camp soviétique, qu'on s'est évadé de la Gestapo, et qu'on porte ce message aux États-Unis, où on pense que, enfin aux États-Unis et en Angleterre, où on pense que le salut du monde, d'où on pense que le salut du monde aura lieu. Comment est-ce qu'on fait pour supporter ce nouvel obstacle? Comment est-ce qu'on fait pour supporter l'idée que peut-être que tout n'a pas été fait pour sauver les Juifs d'Europe? Je me suis dit que Jan Karski était non seulement un témoin de l'extermination des Juifs d'Europe, mais qu'il était aussi un témoin d'une certaine passivité, pas jusqu'au bout, mais quand même, d'une certaine passivité des Alliés vis-à-vis de l'extermination, et qu'il avait des choses à dire, et qu'il avait des choses qu'il a gardées secrètes, qu'il a tues. Donc je n'ai pu qu'imaginer, puisque ce sont des choses qui relève de l'intimité la plus profonde, puisque Karski avait une sorte de, je ne vais pas employer le mot devoir de réserve, parce que ça résonne avec des polémiques plus récentes, mais il avait une sorte de, comment dire ça, de respect pour la figure de Roosevelt. Il était tenu par la diplomatie jusqu'à un certain point, les relations polonaises avec les États-Unis. Il était tenu par toutes sortes de choses, également par une culpabilité. Je parlais tout à l'heure de la noblesse de cet homme. Je pense que sa noblesse le poussait jusqu'à se sentir coupable, alors même qu'on peut dire que sur cette question, la culpabilité est, je ne dis pas générale, mais elle est très très étendue, et que peut-être Karski fait partie de ces rares personnes qui sont, pour le coup, très peu coupables. S'il y a bien quelqu'un, pardon, qui a essayé de faire quelque chose, c'est au moins Jan Karski. Mais de fait, voilà, je me disais que pour entrer dans ce nœud très complexe lié à qui est masqué, je dirais, par le traumatisme, la dépression, par un savoir géopolitique très très fin, très aigu, très polémique, il n'y avait que par les moyens, je dirais, de la fiction. Parce que l'enquête que j'ai commencé à mener ne m'a porté que des faits. Je ne méprise pas les faits, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un tel homme de 45 à 2000, je ne vois pas comment on peut le dire, à part par les moyens de ce que j'appelle, alors en donnant à ce mot un sens absolu, la littérature. Voilà, donc j'ai pris le parti, très risqué, je le sais, je l'assume, d'écrire un monologue à la première personne concernant Ian Karski.
Dans lequel, en dépit de la modestie avec laquelle vous venez de le présenter, les faits ne sont pas absents.
Dire oui, que,
alors, la polémique, bah, le débat, disons, pour garder un terme neutre, sur... il n'y en a pas sur ce que savaient, en effet, les états-majors alliés, l'état-major américain en particulier. Donc tout ça a été amplement rapporté dans des livres documentés. Les photos, d'ailleurs, de l'OSS, et l'organisation du service de renseignement américain qui a précédé la CIA, ont été diffusées largement. Donc c'est très bien que dans l'aviation américaine, les bombardiers avaient les plans, puisqu'ils pouvaient, c'est la question qu'on leur a souvent posée, puisqu'on pouvait prendre des photos aériennes, on pouvait également bombarder. C'est un vaste débat. Dans votre livre, donc on pourra reposer des questions sur ce débat, mais dans votre livre, on va au-delà. C'est vrai, vous venez de nous le dire, Ian Karski a le sentiment que son message, s'il a été écouté, n'a pas été entendu, mais c'est peut-être le contraire d'ailleurs. Il a ce sentiment de culpabilité dont vous venez de parler à l'instant, c'est... j'aurais peut-être pu, mais qu'est-ce que j'ai manqué qui a fait que... Mais votre monologue commun, votre personnalité partagée avec Karski à ce moment-là, il y a aussi une méditation, une réflexion sur le sens des mots. Vous l'avez dit tout à l'heure, le sens du mot « humanité ». Il y a un passage, j'étais en train de le feuilleter là grossièrement pendant que vous parliez, mais c'était pas que je vous écoutais pas, sur l'année 1945, donc en particulier, enfin, sur le moment donc du grand V de la victoire, qui précède aussi les bombardements de Hiroshima et Nagasaki, vous dites, voilà, il n'y aura plus de victoire, enfin, on ne peut plus parler de victoire. On a changé de monde. Vous citez d'ailleurs une très belle phrase que je ne retrouve pas, de George Orwell, sur... ce que signifie aussi la Shoah, que les Américains appellent l'Holocauste, et ce que signifie globalement la Deuxième Guerre mondiale pour la civilisation qui s'annonce. Donc votre monologue n'est pas simplement le grand cri de désespoir que vous prêteriez à Ian Karski. Vous entrez dans quelque chose de beaucoup plus profond à ce stade.
C'est évidemment une méditation sur ce qu'on appelle l'histoire avec un grand H. C'est évidemment, encore une fois, c'est une question de... Comment dire ? C'est une question de savoir et de non-savoir. Enfin, c'est... Au fond, ce qui m'intéresse chez Ian Karski, c'est ce que Kafka appelle l'histoire mondiale de nos âmes. C'est-à-dire que comment, d'une part, comment est-ce qu'on fait pour garder son âme, si on en a une, face à l'histoire mondiale et à ses horreurs, et comment... est-ce que l'histoire mondiale, précisément, ne peut que nous transformer, nous dévaster, ou éventuellement nous sauver ? Pour revenir à la question essentielle, qui est celle de ce que j'appelle la surdité occidentale, c'est-à-dire le fait que face à la tentative de transmission de Ian Karski, historiquement, de fin 42 à 44, il a eu le sentiment, il l'a dit lui-même, de ne pas avoir été entendu. Je peux citer quelque chose dont il parle dans ses mémoires, qui est sa confrontation avec un juge de la Cour suprême, qui s'appelle Félix Frankfurter. Je me rends parler parce que là, il est question des mots, du langage, c'est-à-dire de l'essentiel. Ian Karski raconte...
Le premier juge juif, d'ailleurs.
Le premier juge juif de la Cour suprême, effectivement. Ian Karski lui dit ce qu'il a vu et entendu dans le ghetto de Varsovie. Et Frankfurter lui dit « Je ne peux pas vous croire ». Ian Karski lui dit « Vous dites que je suis un menteur ». Frankfurter dit « Non, Je ne dis pas que vous êtes un menteur, je dis que je ne peux pas vous croire. Et cette réponse de Frankfurter, pour moi, est capitale et infinie. Et parce qu'au fond, son « je ne peux pas vous croire » dans ce non-pouvoir, il y a plusieurs choses, on peut interpréter ça de manière multiple. Il y a cette manifestation désespérée d'une incrédulité, pardon, c'est comme si Frankfurter disait « c'est impossible, ça ne peut pas être, enfin, même si vous me le réexpliquer, je n'arrive pas à y croire. Enfin, ça dépasse l'entendement. Donc ça, c'est une première interprétation. Et je pense que c'est quelque chose, cette incrédulité, je vais dire un mot entre guillemets, légitime, à ce moment-là de l'histoire, au fond, Jan Karski l'a rencontré très souvent. Mais il y a aussi dans le « je ne peux pas vous croire » quelque chose qui relève du « je n'ai pas le droit » politiquement, de vous croire à ce moment précis, parce que la stratégie américaine fait que nous sommes encore en train de nous renseigner, de vérifier les renseignements, de les recouper, et il ne s'agit pas, pour toutes sortes de raisons liées à l'Amérique et à ses desseins, enfin, même à l'après-guerre, il ne s'agit pas d'aller sauver les Juifs d'Europe, mais de vaincre Hitler. Donc ça, c'est des questions fondamentales. Et je n'ai pas pu ne pas prêter à Jan Karski cette interprétation qui peut-être est paranoïaque, mais il faut quand même se dire que fin 42, début 43, cet homme, Karski, voit pas seulement son impuissance à transmettre, pas seulement sa culpabilité naissante qui consiste à se dire « je n'emploie peut-être pas les bons mots, est-ce qu'il y a des bons mots pour dire ça ?» mais également le fait que, face à lui, à part Arthur Koestler en Angleterre, qui tout de suite comprend qu'il se passe quelque chose qui nécessite une transformation radicale de la politique des Alliés et qui va le dire dans des articles, à part Arthur Koestler, Jan Karski a forcément le sentiment chaque jour d'être face à des gens qui sont empêchés. Empêchés par quoi ? Moi je lui fais dire des choses qui effectivement sont sans doute excessives du point de vue historique, qui sont jusqu'à un certain point prouvés concernant la politique américaine, dans certains livres de notamment de David Wayman, mais bien d'autres. Je lui fais penser que, à force, mais il le pense aussi par lassitude, par désespoir, à force, Jan Karski s'est peut-être dit, et là je le dis avec prudence, mais il s'est peut-être dit qu'à un moment, il y a aussi eu une volonté de ne pas agir. Et je dis ça sans provocation. Enfin, je sais qu'on a beaucoup discuté à propos de ça, de cette partie de mon livre. Je dois dire que j'étais un peu étonné parce que ça n'est absolument pas nouveau. La passivité des Alliés est quelque chose de connu. Bien sûr que c'est grâce aux Américains et aux Anglais que les nazis ont été vaincus. Bien sûr que c'est grâce à eux qu'on a pu sauver des gens qui étaient en train de mourir dans des camps. Sauf que, il est clair et net, mais là c'est pas de l'ordre de l'accusation, sauf qu'il est clair et net qu'il y a eu un moment durant cette guerre de flottement, je sais pas comment dire ça. Je prête à Karski des propos beaucoup plus durs, parce que lui butait chaque jour sur... il avait envie de secouer tout le monde, enfin. Il y a eu plus qu'un flottement, il y a eu une zone très sombre, très trouble, où impuissance, volonté, désarroi, incompréhension, tout ça formait quelque chose d'un peu tortueux, sans compter que, comme vous le savez, l'opinion publique américaine dans les années 40 était fortement antisémite, qu'une partie du gouvernement, notamment le département du Trésor, était soit antisémite, soit faisait preuve d'un anti-judaïsme, on en a un petit peu parlé avant en se rencontrant. Tout ça était très très complexe, enfin. Et Jan Karski, pour moi, est aussi le témoin de ça.
Et dans le même temps, pardon de vous interrompre, je vous en prie. Dans le même temps, une partie de l'entourage du président Roosevelt est issue de l'élite de la communauté juive américaine.
Bien sûr.
Vous avez cité Frankfurter, il y a son, je crois que c'est son directeur de cabinet à l'époque, son secrétaire, sont des juifs forts de l'establishment juste de Washington ou de New York. Donc, il y a cet étrange, enfin, cet étrange paradoxe qui fait que cette volonté, alors, lui va jusqu'à dire la volonté de ne pas agir. Les propos que vous pouvez tenir sur le président Roosevelt, sur l'entretien, et sur le fait que Roosevelt passe son temps à étouffer des bâillements pendant que Karski essaye de lui raconter avec beaucoup de précision tout ce qu'il a vu, le répète, et l'autre étouffe des bâillements en permanence. Je crois qu'il me prononce même à un moment le mot d'abjection, enfin, lui ou vous, enfin, vous, on ne sait plus à qui on parle. Donc, on sent que Karski est profondément révolté. Mais on voit bien que ce n'est pas seulement le président Roosevelt.
Bien sûr, mais le président Roosevelt, tout le monde le sait, et je ne dirais pas irréprochable, au contraire, mais, enfin, pas au contraire, mais on ne peut absolument pas le soupçonner d'antisémitisme ou d'antijudaïsme, ça c'est clair et net. Quand je mets en scène le Roosevelt en train de bâiller face à Ian Karski, c'est une invention de ma part, parce qu'un bâillement, personne ne peut le prouver. Qui va prouver qu'on a bâillé ou pas bâillé? Simplement, je le fais volontairement.
Il n'a pas bâillé, il a étouffé. C'est plus facile.
Quand je mets en scène effectivement ce bâillement, c'est pour plusieurs raisons. C'est que, premièrement, cet entretien fondamental entre Ian Karski et le président Roosevelt demeure encore aujourd'hui énigmatique. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? On a deux versions de cet entretien qui... Les deux versions sont extrêmement diplomatiques, si vous voyez ce que je veux dire. Celle de Ian Karski, qui est tenue en 1944 par les relations liées à la guerre. Enfin, les Polonais attendent encore de l'aide. Enfin, les Polonais, quelques semaines, quelques mois après, la résistance polonaise va se faire massacrer quasiment dans l'indifférence générale.
À ce moment-là, ils attendent. Il faut le rappeler, l'armée rouge de l'autre côté de la Vistule, attendant que ça soit fini.
Bras croisés, voilà, en attendant que le travail soit achevé par les nazis. Et les soviétiques, ils sont alliés. Ils sont du côté. L'autre raison pour laquelle... Enfin, je m'embrouille.
Vous parliez des deux versions.
Oui, voilà. La deuxième version est celle de l'ambassadeur de Pologne qui était là lors de l'entretien. Tous les deux, Karski et l'ambassadeur, sont empêchés. En fait, ils ne peuvent pas dire librement ce qui s'est passé. Mais c'est pour attirer l'attention sur la violence politique. Quelqu'un, Ian Karski, parle des atrocités en cours et de l'extermination des Juifs d'Europe dans un lieu tout à fait confortable, la Maison Blanche. Et Ian Karski ressent, en sortant, le fait qu'au fond, son témoignage, non seulement n'a servi à rien, mais qu'on l'a pris pour quelqu'un qui n'avait pas d'importance. La Pologne, à ce moment-là de l'histoire du monde, est tenue pour une quantité négligeable. Les Américains, pas seulement Roosevelt, ont fait sentir à Karski et aux autres que la Pologne, on est en plein effort de guerre et la Pologne n'a plus rien à apporter. La Pologne est quasiment, c'est quasiment fichu en fait. Donc je voulais répliquer à la violence politique par une autre forme de violence qui est celle de la satire. Donc effectivement, quand je fais bâiller Roosevelt, c'est comme une sorte de métaphore pour faire entendre quelque chose de l'ordre de l'abjection, effectivement. On m'a attaqué sur, je le dis très, très calmement, on m'a attaqué sur le fait que je décrivais Roosevelt en train de reluquer, je cite, les jambes de sa secrétaire. Je n'ai pas répliqué la plupart du temps, parce que sur ce point-là, je ne veux pas me défendre. Et puis ça venait de quelqu'un que j'estime énormément et que j'admire. Mais il se trouve que dans la biographie de Roosevelt, on apprend que Roosevelt a 3 ou 4 maîtresses, et que sa femme couche avec un espion soviétique. Donc, bon, qu'on m'attaque sur le fait que Roosevelt s'intéresse à une jeune femme, enfin, je ne vois pas ce qu'il y a de mal à s'intéresser à une jeune femme, mais je trouve ça un peu gros.
Comme qu'à l'époque, il peut aller plus loin que...
Exactement.
Un voyeuriste intéressé, il est quand même à un an de mourir, le président Roosevelt.
En effet.
À ce moment-là, il n'est plus au mieux de sa forme.
Donc cette scène capitale, au fond, porte sur, plus sérieusement, sur quelque chose qui est de l'ordre de la... de la surdité. Ma question, c'est, est-ce que cette surdité est volontaire, stratégique, ou liée à la stupéfaction ? Je ne peux pas croire une seule seconde qu'en avril 1943, Roosevelt soit stupéfait par ce que Yann Karski lui dit. Les services secrets, ça existe. Et j'ai énormément de livres sur les rapports entre les services secrets et la Shoah. Et on sait très bien, je ne dis pas ça depuis une position de savoir, je n'ai aucune position de savoir sur ces choses-là, moi je m'interroge, c'est tout. On sait quand même que début 1943, le gouvernement américain...
Et les photos dont nous parlions tout à l'heure,
voilà,
sont publiées dans l'île de Wayne.
Ce qui se passe, voilà. Donc, en un sens, on a fait croire à Yann Karski qu'on ne le croyait pas.
En l'occurrence, c'est là... évidemment, c'est problématique et discutable, mais... d'une certaine façon, ce n'est plus vraiment le président Roosevelt. Aurait-il été profondément indigné, un peu plus jeune, plus en forme, je pense que chez Eisenhower, enfin chez Patton, chez Eisenhower, et à l'intérieur de l'état-major, et des décideurs qui sont d'ailleurs plus à Londres qu'à Washington, des décideurs militaires, vous l'avez fort bien dit, la Pologne est à peine un champ de bataille, et en tout cas, un élément totalement négligeable sur ce front. Et si c'est un élément de front, ça appartient à Staline et à l'armée rouge, c'est pas nos affaires, dans tous les cas de figure. Donc on va pas en plus marcher sur leur brisée. Et alors à l'intérieur de ça, les juifs sont encore moins que rien. Si la Pologne n'est plus grand chose, c'est-à-dire la situation qui présidait d'ailleurs au point de départ de tout cela, la résistance du ghetto à l'intérieur de la résistance polonaise, se transmet là en pire, enfin se transcrit en pire. En 1944, quand le ghetto a été liquidé, et qu'il n'y a pratiquement plus rien à faire. Et donc, enfin non, on est un peu avant, en 1943, on est au moment de l'insurrection du ghetto. Mais le message de Karski, tel que vous le reprenez en compte, est beaucoup plus... il est encore plus global que ça. C'est-à-dire, en gros... J'ai retrouvé la phrase d'Orwell, tiens, je vais... c'est en pensant... Orwell dit... cette guerre, donc il parle de la Deuxième Guerre mondiale, était avant tout le symptôme monstrueux d'une métamorphose du fascisme en socialisme, l'accouchement d'une perversion dont le résultat allait être d'autant plus terrible que les idéologies en seraient définitivement brouillées, ne surnageraient qu'une dévastation toujours plus obscène dont les alibis politiques seraient interchangeables. Au fond, c'est vous parlant par la voix de Yann Karski, ou Yann Karski parlant par votre plume, au fond, le XXe siècle ne lui a pas donné tort. Et donc après vous dites, Nuremberg, le procès de Nuremberg, formidable, on a blanchi, c'est la justice, en gros vous reprenez la thèse, c'est la justice des vainqueurs qui d'une certaine façon a blanchi sa passivité et son indifférence en pendant les coupables. Donc vous ne dites pas qu'ils n'étaient pas coupables. Mais c'est tout de même un message très noir.
Mais ce que je prête à Yann Karski comme pensée concernant le procès de Nuremberg, je sais que c'est une pensée qui là aussi est très discutable, mais...
on peut discuter. Hein.
Oui, bien sûr. encore une fois, pensant à ce que Yann Karski a vu, vécu, entendu, c'est que Karski va jusqu'à se demander, effectivement, si au procès de Nuremberg, sachant que la responsabilité, entre guillemets, la responsabilité des alliés n'a pas été invoquée, de quelque manière que ce soit. Il ne s'agit pas de dire que c'est les alliés qui sont coupables de l'extermination des Juifs d'Europe, absolument pas. Enfin, c'est tout à fait hors de question. Mais Yann Karski va jusqu'à se dire que comme le procès a été organisé, disons, par l'Amérique, par les vainqueurs, au fond, en n'abordant jamais, parce qu'il était trop tôt, en n'abordant jamais cette question de savoir si on aurait pu faire quelque chose, les alliés se sont blanchis. Et historiquement, effectivement, on n'en était pas encore à ce moment où il était question d'ouvrir la boîte noire. Moi, pour moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, sachant que je ne suis pas historien, ce qui m'intéresse comme écrivain, se mettant à être passionné par un homme qui fait partie de l'histoire, c'est en quoi, finalement, cet homme fait partie de quelque chose que j'appelle l'une des boîtes noires du XXe siècle. J'utilise volontairement cette métaphore un peu, un peu vulgaire, excusez-moi, mais de qui est aéronautique, comme vous savez. Mais je pense que il y a plusieurs boîtes noires qui et dans l'historiographie, je reviens de Pologne, et dans l'historiographie et dans la manière dont les Polonais se mesurent à leur propre histoire, ils font des efforts incessants puisqu'ils ont été privés d'accès à leur propre histoire par le régime soviétique notamment. Dans l'histoire du XXe siècle, il y a des dispositifs comme ça de, je dirais pas de censure ou de tabou, je ne sais pas comment les nommer, mais de nœuds de complexité qui, à mon avis, sont encore à venir. C'est-à-dire des nœuds de complexité qui sont en train d'être dénoués. Je pense que la question de la... Mais le mot est trop fort, responsabilité des alliés. La question de savoir de quelle nature a été cette passivité, cette question est toujours en cours. Et j'attends avec impatience, à chaque publication, tout ce que les historiens anglo-saxons et français écrivent sur ces questions-là. Jan Karski, pour moi, était au moment où je l'ai écrit, était aussi un moyen, le mot est laid, mais un moyen de transmettre une interrogation sur l'une de ces boîtes noires. Pas de les ouvrir, enfin c'est impossible, moi je n'ai pas les moyens de ça, mais d'attirer l'attention sur ça. Et je pense que c'est déjà beaucoup avec mes moyens historiques qui ne peuvent pas dépasser mes propres capacités. Et encore une fois, qu'il y a cette idée d'attirer l'attention sur ces boîtes noires, et d'autre part de faire partager le destin, comme on le disait au tout début, enfin, stupéfiant, magnifique, d'un homme qui fait partie de l'histoire de la transmission. Moi, je me suis posé une question très simple. Je vous disais tout à l'heure que j'avais convié, dans le lycée où je travaillais, des survivants de la Shoah à témoigner, et que ces deux survivants sont morts. Donc la question de la disparition des témoins est une question fondamentale pour le XXIe siècle. Et je me demande, au fond, comme je ne suis sûrement pas le seul, comment est-ce que la mémoire de la Shoah va se transmettre, pas seulement de la Shoah d'ailleurs, comment cette mémoire va se transmettre lorsque tous les témoins seront morts? Parce que malheureusement, il y aura un moment où il n'y aura plus de témoins. Alors, il y a les livres, il y a ce qui a déjà été écrit, mais comme vous le savez, les livres, même quand ils sont écrits, il faut sans cesse les réveiller. Par nos lectures, mais par la réécriture, si je puis dire. Enfin, et je pense qu'il y a quelque chose qui va... qui doit, je ne sais pas, changer à un moment du XXIe siècle, qui est le rapport que des gens qui évidemment n'ont pas vécu cette période-là, comme moi, et des gens qui ne sont pas juifs, comme moi, le rapport que ces gens-là vont entretenir, enfin je dirais même les générations futures vont entretenir avec l'événement de la Shoah, qui est un rapport qui sera forcément, d'une manière ou d'une autre, qui sera un rapport imaginaire. Au sens où on ne peut, même si on ne peut pas imaginer, on ne peut qu'avoir un rapport qui passe par énormément de filtres, d'écrans, ou de savoir d'ailleurs. Et donc je me suis dit, je vais vite finir, je me suis dit que, avec tout le respect que j'ai pour Claude Lanzmann et mon admiration pour Shoah, pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, je pense qu'on ne peut plus en rester à l'idée que les rapports entre la Shoah et la fiction, entre guillemets, sont interdits. Au sens où il va bien falloir que cette mémoire, si elle veut se perpétuer, passe à travers quelque chose de neuf, qu'on le veuille ou non. Et forcément, dans l'idée de la mémoire, enfin, c'est comme quand on aime quelqu'un, en fait. Ce quelqu'un, on ne peut pas le connaître à 100%, on est obligé d'imaginer ce à quoi il ou elle pense. À quoi tu penses? C'est la question fondamentale. Et moi, je trouve que la fiction, c'est ça, c'est à quoi tu penses. Et je ne peux qu'avoir, je le dis vraiment sans aucune provocation, je peux avoir, quand j'essaye de penser, moi, à l'extermination des Juifs d'Europe, je ne peux qu'avoir des rapports de savoir en lisant tout ce que je peux lire, d'écouter tous ceux qui peuvent m'en parler, mais je ne peux qu'avoir un rapport de fiction parce que je n'arrive pas à me représenter la chose. Et il y a un moment, donc, je suis désolé, je suis peut-être un peu embrouillé, mais je pense qu'il y aura un moment au début du... Enfin, on est au début du XXIe siècle et je participe à cette histoire avec ce livre. Il y aura un moment où une fiction, mais une fiction informée, une fiction éthique, une fiction scrupuleuse, sera l'un des moyens de la transmission. Ce ne sera pas une transmission de quelque chose de faux, ce sera une transmission interrogative, vous voyez.
En tout cas, pour ce qui vous concerne, vous parlez de fiction éthique, c'est surtout une fiction habitée, c'est-à-dire que on ne pense pas un instant que vous avez inventé un Jan Karski bis, parce qu'il sierait ainsi à Yannick Hanel. Alors, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir entrer dans ce débat-là. Il y a encore 1000 questions à vous poser sur votre livre, mais je suppose qu'il ne va pas nous rester énormément de temps. Mais celles et ceux d'entre vous qui ont d'autres questions à poser à Yannick Hanel, je vous en prie, c'est le moment. Oui, monsieur.
Moi, je voulais dire que votre livre n'a pas été reçu par tout le monde de façon tout à fait positive.
Bien sûr.
En particulier, je pense à un journal issu des milieux de la déportation qui s'appelle Le Patriote Résistant, et que dans ce journal, qui est sorti il y a quelques jours, on dit que vous avez innocenté la résistance catholique polonaise de son antisémitisme et que vous avez innocenté la Pologne globalement aussi, et que vous avez condamné tout le monde occidental par sa passivité. Alors moi, je peux vous dire un mot. Ma mère est allée à Auschwitz et j'ai rencontré tout de suite après la guerre des survivants qui m'ont dit une chose qui n'a jamais été dite, que les Russes se seraient arrêtés comme ils ont fait devant Varsovie, qui se seraient arrêtés à une certaine distance du camp d'Auschwitz. Je ne l'ai retrouvé nulle part. Et c'était un témoin du camp. Il était médecin dans le camp. Voilà ce que j'avais à dire.
Je vous en prie. Quoi dire ? Enfin, s'il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais dire que je ne suis absolument pas le porte-parole de la résistance polonaise, ni le porte-parole de la Pologne, ni le porte-parole de qui que ce soit. J'ai essayé vraiment, modestement et de manière très compliquée, pendant 3-4 ans, d'être un peu le porte-parole de Karski. Je pense que à aucun moment dans mon livre, je ne minimise l'antisémitisme polonais. Mais la question de l'antisémitisme de certains Polonais, et pas de la Pologne dans son entier, c'est une question que je mets également en parallèle, et ça c'est volontaire, avec d'autres antisémitismes, c'est-à-dire l'antisémitisme américain et l'antisémitisme soviétique, et l'antisémitisme français, il en est très peu question dans ce livre. Mais je veux dire par là qu'il ne s'agit pas de comparer les antisémitismes, mais d'interroger à travers la figure d'un résistant polonais qui n'est pas antisémite.
Et qui n'est pas juif.
Et qui n'est pas juif.
Accessoirement.
D'un catholique polonais de la résistance qui n'est pas antisémite, il s'agissait d'interroger sa propre singularité. Donc tout ça pour dire que je n'ai pas fait le portrait de la résistance polonaise, je n'ai pas fait un panorama sur les positions politiques et spirituelles de la Pologne à cette époque, mais le portrait d'un homme.
Permettez-moi de vous interrompre, Yannick. Il y a trois éléments qui sont factuels, en l'occurrence. Le premier, c'est l'image, le cliché qui n'en est pas un, qui est un fait aussi, mais qui est évidemment celle qui s'est imposée à tout le monde, c'est évidemment le paysan sur le bord de la voie de chemin de fer dans Shoah de Landsman, qui passe la main sur la gorge pour évoquer les trains.
Voilà, je le rappelle.
Que vous rappelez. L'autre fait, c'est un anti-judaïsme, appelons-le plutôt comme ça, catholique, très profondément ancré en Pologne. L'autre fait encore, et le fait que vous d'ailleurs vous citez dans le livre, qui est un fait parfaitement objectif, repérable et même chiffrable, c'est que dans ce qu'on appelle les justes, donc au mémorial Yad Vashem. Les étrangers qui sont les plus représentés sont des Polonais. Et on peut hasarder, et qu'il y a eu des actes formidables de courage, d'action de Polonais pour aider les Juifs, et on peut hasarder. Alors là, vous parlez tout à l'heure de fiction intuitive, je pense que je passe les bornes, mais qu'il y a probablement un certain nombre de catholiques antisémites qui ont pris des risques énormes pour sauver des Juifs, parce que c'était leur voisin, parce que c'était... Alors, il y a toutes les... Ça a l'air scandaleux comme ça, mais je pense qu'il faut aussi assumer cette part de scandale. Votre histoire, en tout cas, nous permet aussi de dire, il y a suffisamment de choses dramatiques à la fin pour dire que ce n'est quand même pas si simple. Il y a beaucoup de zones grises entre le noir et le blanc des légendes nécessaires.
Bah, c'est-à-dire que oui, l'un des partis pris du livre, et c'est l'un des partis pris de ma pensée, entre guillemets, c'est qu'il est possible que le parti du bien n'existe pas. Donc, voilà, bon, c'est une constatation un peu simple, mais et que donc, dans l'histoire de ce qui a eu lieu pour sauver ou non les Juifs d'Europe à ce moment-là de l'histoire, des politiques sont impliquées, enfin, des nations sont impliquées. Et l'idée, enfin, l'image, je ne sais pas comment la nommer, que propage ce livre-là, enfin, c'est que, concernant cette question du sauvetage des Juifs d'Europe, le parti du bien n'existe pas. C'est-à-dire, c'est sans doute ce que Karski a vécu quand il a rencontré des politiques en Grande-Bretagne et en Amérique. Deuxième chose, c'est que, quand je dis le parti du bien n'existe pas, dans la représentation qu'on se fait des choses, effectivement, je dirais que, comment dire, que peut-être, c'est documenté ça, la résistance polonaise n'est peut-être pas aussi héroïque que Jan Karski veut bien le présenter dans son propre livre de mémoire, mais que voilà, moi je pense qu'effectivement, sans que je l'ai voulu, parce que ce n'était pas mon but, j'ai donné une image de la Pologne qui va à l'encontre de la... Vous utilisiez le mot cliché, je crois, ou plus... mot cliché, ou disons, de la représentation automatique qu'on a de la Pologne. C'est-à-dire l'idée qu'en Pologne, tous les Polonais sont antisémites. Bon, ça me paraît une aberration. Enfin, et pour vous raconter juste une petite anecdote, mais qui en dit long, en fait, sur l'automatisme pavlovien concernant cette grave question du rapport entre... les Juifs et les catholiques en Pologne, et l'idée que dans le monde occidental on croit, et peut-être parfois on préfère croire que tous les Polonais sont antisémites. Quand j'écrivais ce livre, je racontais constamment l'histoire de Jan Karski à tout le monde, même à des gens que je connaissais depuis 2 minutes, parce que j'étais obsédé par l'histoire de Jan Karski. J'ai pu vérifier à ce moment-là que Jan Karski, en fait, n'était pas connu en France, je veux dire. Et que beaucoup de gens avaient vu, comme moi, le film de Lanzmann, mais qu'on ne se souvenait pas vraiment de Karski, on ne connaissait pas son histoire. Et donc, un jour, j'ai dit comme ça à quelqu'un qui ne comprenait pas ce que j'étais en train d'écrire, je lui dis, dans le fond, on pourrait dire que j'essaye d'écrire un livre sur, mais pas vraiment, la Shoah, mais disons, d'un point de vue polonais. Grave question. Et il me dit, ah, du point de vue des bourreaux. Et je me suis dit, là, il y a un problème, parce que cet automatisme dont je parle fait que, l'histoire que j'étais en train de raconter, celle de Jan Karski, était brouillée par ce qu'on pense de la Pologne. Alors, pour moi, il ne s'agit à aucun moment vraiment de... Et c'est quand on lit le livre, je dirais, avec... normalement, enfin, on s'en aperçoit, il ne s'agit à aucun moment de minorer cette question d'un antisémitisme qui a eu lieu en Pologne, chez certains Polonais, mais il s'agit quand même de nuancer cet antisémitisme en se refusant de dire que cet antisémitisme était collectif et était lié à la Pologne entière. Ça, je trouve que c'est une... comment dire ça, que c'est faux, tout simplement.